à vue d'esprit, Catherine Erard.
Méditer, la méditation, spontanément, ces mots évoquent des techniques extrême-orientales, lesquelles ont d'ailleurs inspiré des méthodes comme la méditation pleine conscience. Mais le saviez-vous, la méditation a ses propres racines en Occident et dans le christianisme. Aux racines chrétiennes de la méditation, une série que nous propose Evelyne Auberçon et qui est réalisée par Hélène Ichters. On a souvent l'impression que la méditation est plutôt réservée aux religions d'extrême-orient, que ce soit le zen, que ce soit le bouddhisme. Or, avec vous, Evelyne, on découvre depuis le début de la semaine que les chrétiens ont aussi dans leur tradition toute une pratique de la méditation qui avait été mise de côté, du moins en Occident. Alors on va essayer avec vous, pour ce dernier volet, de comprendre finalement pourquoi est-ce que ça n'a pas perduré ou ça a été du moins réservé à une élite.
Ça a été réservé aux moines et aux moniales dans les monastères ou dans certains ordres religieux où on maintient la pratique de l'oraison, par exemple. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus fleurir des séries d'offres de méditation au sein même de ces institutions chrétiennes. Pourquoi ? Et on va en parler avec Michel Maximeguer, sociologue de tradition orthodoxe.
Qu'on a déjà entendu cette semaine.
Hein. Exactement. Et le pasteur Virgile Rocha. Mais avant cela, je vous propose de vivre concrètement un temps de méditation tel qu'il est pratiqué par la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. Parce que c'est vrai, méditer deux fois par jour chez soi, ça paraît simple, mais en même temps, ça n'a rien d'évident à de mettre en place. Donc c'est pour cette raison qu'il existe des groupes de prière qui réunissent des méditants une fois par semaine. Donc à Lausanne, par exemple, on va retrouver un groupe qui se réunit tous les mardis à 12h30 dans la chapelle du Cénacle, qui se trouve sous l'église catholique du Valentin. C'est une dizaine de personnes de tous âges, de toutes confessions, qui vont s'asseoir en cercle autour d'une simple bougie. Alors on arrive au Cénacle, petite chapelle en dessous de l'église du Valentin. On enlève les chaussures.
Les yeux doucement, gentiment, les mains sont posées devant nous. Et puis intérieurement, silencieusement, on répète une parole. Et la parole que je vous recommande est la parole Maranatha. Père céleste, ouvre nos cœurs à la présence silencieuse de l'esprit de ton Fils. Conduis-nous dans ce silence mystérieux où ton amour se révèle à tous ceux qui appellent. Maranatha, viens Seigneur Jésus. De la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, la prière de Paul. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite vos cœurs par la foi. Voilà, on peut prendre un moment pour vos questions, partage.
J'ai bien aimé que tu sortes ce texte-là, parce qu'en fait, quelque part, il décrit un peu ce qui peut se passer dans la méditation. C'est-à-dire qu'il y a une effectuation de l'esprit, de la grâce dans l'être humain par le biais du « on sait comment faire ».
Pour moi, méditer, c'est vraiment être dans un chemin, mais dans un chemin qui me conduit vers une plus grande clarté.
Merci à vous.
Merci à vous.
Virgile Rocha, vous êtes pasteur, employé dans le cadre de l'Église évangélique réformée vaudoise. Vous êtes ici à titre personnel ou professionnellement?
On peut dire les deux, en fait, parce que ça apporte beaucoup personnellement, mais quand même la motivation de base, c'est d'essayer d'aller à la rencontre des attentes et des besoins religieux des contemporains. Et on sait qu'il y a un énorme appétit pour la méditation, pour le silence dans ce monde de bruit, pour l'arrêt dans ce monde de mouvement, de mobilité. Et comme on a la chance de trouver dans le trésor chrétien des éléments de méditation, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vis et c'est ça que j'aimerais partager autour de moi.
Ça signifie que cette communauté de méditation chrétienne, vous aimeriez pouvoir l'élargir aussi dans le cadre de l'Église vaudoise ?
Oui, si on veut la méditation, oui. Ce qui est important, c'est de méditer, c'est que les gens puissent trouver des lieux de méditation. L'étiquette est pour moi pas déterminante. Ce qui est important, c'est de pouvoir se laisser descendre en soi et rencontrer cette présence ou rencontrer soi-même, suivant la théologie qu'on a. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de méditer, mais qui n'ont pas envie de quitter leurs propres racines spirituelles. Et c'est important parce que l'anthropologie qui est derrière, elle est très différente entre l'Orient et l'Occident. Mais grâce à Jean Cassien, là, ce père de l'Église qui a écrit ses conférences, et en fait au travail des moines des Pères du Désert, on a ça. Et grâce à l'orthodoxie et à la prière du cœur, on a ça. Donc c'est pas seulement la méditation dite chrétienne, c'est la méditation à l'intérieur de la tradition chrétienne qui m'intéresse et que je pratique.
On vous sent quand même à moitié, un pied dedans, un pied dehors quand je vous entends parler.
Oui, parce que c'est pas, pour moi l'important c'est pas d'entrer dans un mouvement ou dans même une communauté. L'important c'est de pouvoir opérer cette espèce de, je disais tout à l'heure, de transmutation à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose de la grâce qui pénètre, il y a un moyen, parce qu'on est dépourvu de moyens dans le protestantisme, autre que l'intellection. Et ça, c'est un moyen qui engage le corps, qui engage. Et ça, c'est ça qui est intéressant pour moi. Ouais.
Virgile Rochat, vous faites référence aux besoins que vous sentez de vos contemporains de méditer. Et en même temps, l'Église occidentale, que ce soit l'Église catholique ou l'Église protestante que vous représentez, n'ont pas forcément perpétué cette tradition, l'ont même écartée, voire des fois. Mise carrément de côté.
Oui. Alors, il y a une explication, une double explication. D'une part, elle s'est réfugiée dans les monastères. Parce que dans les monastères, la récitation des psaumes, des litanies et tout ça, c'est de la méditation. Dans le protestantisme, elle s'est réfugiée dans les chants. Il y a une grande tradition de chants avec Bach, donc elle est là présente. Dans un chant, on respire. On inspire assez vite et on expire lentement. On est en position de méditation. Et quand on vit bien un culte protestant, on sort de là apaisé, grâce au chant, à mon avis. Donc, elle n'est pas si loin que ça. Mais elle n'est pas reçue de manière directe, frontale, parce qu'on se méfie de la liberté qu'elle peut donner, en fait. Les gens qui méditaient sont des gens qui sont difficiles à institutionnaliser. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas laissé cette porte ouverte. Il fallait tenir un peu le peuple comme ça. C'est l'explication. On médite et on s'approche de quelque chose de très universel qui est à l'intérieur de chaque être humain. Ça, c'est très fort parce que c'est un écuménisme qui dépasse, évidemment, le protestant catholique de loin, mais qui dépasse les religions, voire les spiritualités dites athées qui, elles aussi, méditent. Comme la mindfulness ou des trucs comme ça, la sophrologie, on est dans quelque chose qui pourrait être une chance pour le développement d'une humanité un peu plus réconciliée, un peu moins folle, un peu moins consumériste, un peu moins cinglée, quoi.
Un monde meilleur grâce à la méditation, c'est l'espérance de Virgile Rochat, pasteur de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. La méditation est aussi une manière de retrouver ses propres racines religieuses. C'est l'expérience de Florence Rian qui a renoué avec son Église par ce biais.
J'ai eu une époque dans ma vie où j'avais beaucoup de doutes sur ma foi chrétienne et je souffrais énormément d'une sorte de rigidité, d'intolérance, de manque de cœur, de fermeture.
Et là, vous parlez de l'institution ?
Oui, oui. J'étais vraiment éloignée et la méditation m'a ouvert justement cet espace de cœur et m'a aidée à avoir plus d'amour en moi et plus de paix. Et Voilà, c'est pour ça que je continue sur ce chemin et pour continuer à, dans cette acceptation de moi-même, cet amour de moi-même et des autres.
Et l'enseignement chrétien vous parle au travers de la méditation ?
Oui, justement, l'enseignement chrétien que j'avais reçu dans la tradition catholique, puisque j'ai été élevée dans un couvent, dans des couvents, dans des écoles catholiques, et je m'étais mariée avec un homme divorcé, donc j'avais été excommuniée, et je suis vraiment un peu sortie de l'Église, et je me suis aperçue au fil des années que ma foi était très intellectuelle, que je pensais à Dieu, mais que je... plus que d'avoir une expérience. Et la méditation m'a ramené à cette expérience de Jésus au centre. Et c'est maintenant, je vis ma foi très différemment, plus comme une expérience intérieure.
La foi, d'abord une expérience, c'est la découverte de Florence Rian qui pratique la méditation chrétienne. Mais alors pourquoi la dimension plus contemplative a-t-elle été évacuée pour le commun des mortels dans l'Église occidentale? Pourquoi elle a été maintenue dans la tradition orthodoxe? On en parle avec Michel Maximeguer, devenu orthodoxe, après avoir découvert la prière de Jésus, qui est une prière contemplative, une forme de méditation chez les orthodoxes. Pourquoi cette pratique a-t-elle quasi disparu en Occident? Michel Maximeguer.
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une disparition complète, parce que c'est vrai qu'on retrouve, par exemple, dans la règle de Saint Benoît, vous aurez aussi une mention d'une prière du nom de Jésus. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu quand même aussi dans la tradition franciscaine. Bernard de Clairvaux a des textes magnifiques sur l'invocation du nom de Jésus, de la mémoire de Jésus. Je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, des jésuites qui vont un petit peu en parler. Donc, il n'y a pas une disparition complète en Occident.
Mais en tout cas, elle est centrée dans les monastères. Elle n'est pas dédiée, au grand public des croyants.
Bon, là, il faudrait faire toute une étude, en fait, quasi historique et sociologique de l'évolution de la spiritualité dans le monde occidental. Pour comprendre pourquoi. J'ai un petit peu de la peine à l'expliquer. Ce qui est clair, c'est que dans la tradition orthodoxe, c'est certainement lié au fait que nous avons gardé, ou que la tradition orthodoxe a gardé, une tradition de théologie mystique, où l'expérience de Dieu, et où la place du corps dans la vie spirituelle, on le voit aussi dans la liturgie, reste extrêmement forte, certainement beaucoup plus forte d'ailleurs que dans le monde occidental. Et il faut aussi voir que la tradition orthodoxe, du fait historiquement notamment de sa captivité au sein de l'Empire ottoman, est une tradition qui n'a pas connu toute la révolution des Lumières, toute la révolution de la modernité occidentale, et du rationalisme, donc qui est resté d'une certaine manière très fidèle à cette tradition chrétienne des premiers siècles, et en particulier à la tradition des Pères du désert.
Michel Maximeguer, certains prétendent que une des raisons qui peut expliquer le fait que cette pratique n'ait pas été maintenue, c'est que la pratique d'une méditation rend l'homme libre, et du coup, le pouvoir institutionnel ne peut pas l'accaparer. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication?
Alors, je pense qu'elle a une part de vérité, mais qui finalement n'est pas nouvelle, parce que si on parcourt et lit toute l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme, on voit que dès le début, il y a eu une tension, parfois même des conflits assez forts, entre les mystiques et l'institution. L'institution qui est là précisément pour veiller à l'ordre ecclésial, à l'ordre ecclésiastique, et qui est là aussi pour veiller au dogme, au maintien du dogme. Et puis, évidemment, le mystique qui est dans cette expérience de Dieu, parfois avec une expression de ces expériences qui peut être un petit peu limite par rapport à une théologie d'école, eh bien, il y a très très souvent eu, vous savez, la prière méditative, la prière de Jésus naît et se développe en particulier chez les Pères du désert. Mais les Pères du désert, ce sont des chrétiens qui, d'ailleurs d'une manière assez massive, à un moment donné, décident de partir du monde et des villes quand précisément l'Église devient d'empire, l'Église s'institutionnalise. L'Église, en fait, d'une certaine manière, devient du monde. Et là, vous avez toute une quantité de chrétiens qui, pour retrouver justement une vie intérieure et une liberté, partent au désert. Et vous savez, dans la tradition orthodoxe, on a eu beaucoup, beaucoup de grands débats autour de la prière de Jésus aussi. C'est vrai que le fidèle qui rentre dans ce genre de démarche, eh bien, d'une certaine manière, oui, il s'autonomise. Il acquiert une forme de liberté et il peut à un moment donné être mal vu ou échapper au cadre habituel et aux structures ecclésiales.
Michel-Maxime Guerre, est-ce qu'une autre explication pour comprendre quelque part l'évacuation, ou en tout cas en partie de cette démarche méditative qui suppose aussi une prise en compte du psychologique et du corps, hein, la place du corps est importante dans ce type de méditation, est-ce que ça peut aussi s'expliquer parce que l'Occident quelque part à un moment donné a pris un virage très, très mental, très intellectuel, où tout devient cérébral?
Alors, ça a certainement joué un rôle. Je pense qu'il y a, dans l'émergence de ce qu'on appelle le paradigme de la modernité occidentale, donc le paradigme au sens d'une certaine conception de l'être humain, de Dieu et du monde, avec d'ailleurs lié à un mode de connaissance, hein, en l'occurrence qui va être la raison, le rationalisme, et qui, au fond, se cristallise vers la fin du XVe siècle. Et je pense qu'à ce moment-là, on est vraiment entré dans des dualismes. On est entré dans un dualisme théologique dans le sens où on voit clairement que Dieu, le divin, est expulsé. Il est expulsé de la matière, il est expulsé du corps, il est expulsé de la nature, du cosmos, dans une forme de transcendance, plus ou moins inaccessible, avec un Dieu qui va devenir de plus en plus abstrait, hein, qui va être d'ailleurs plus une espèce d'ailleurs de principe causal qu'une véritable présence, etc. Donc là, on est dans un dualisme théologique. Et puis lié à ça, on a effectivement une forme de dualisme anthropologique, ce fameux dualisme développé par Descartes, mais qui a été repris dans une certaine théologie entre le corps et l'âme. avec d'ailleurs l'évacuation au niveau anthropologique de cette troisième dimension, qui est la dimension du pneuma, la dimension de l'esprit, qui est précisément ce qui rend l'homme capable de Dieu. Parce qu'on a eu une réduction anthropologique à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y a en Occident une longue et longue histoire de suspicion, de méfiance par rapport au corps. Le corps devenant d'ailleurs à ce moment-là pratiquement une forme, parce que le corps lié évidemment à la sexualité, automatiquement, eh bien on y voit une forme d'obstacle à la vie spirituelle qui est plutôt vécue comme une forme justement d'élévation vers une transcendance, alors, et qui me semble personnellement quasi antichrétienne, puisque le christianisme, c'est au contraire, par définition, la spiritualité de l'incarnation, c'est-à-dire du Dieu, du divin qui descend dans la matière, et non pas de l'être humain qui doit s'extraire de la matière. Et je crois que l'Occident, avec ce dualisme, avec ce rationalisme, a effectivement contribué à développer une spiritualité qui n'a pas donné la place au corps qui lui revenait, a perdu une certaine plénitude anthropologique. Ça, c'est évident.
Beaucoup aujourd'hui recherchent à réintégrer quelque part toutes les dimensions de l'humanité, que ce soit la dimension du corps, mais aussi la dimension spirituelle. Enfin bref, on sent qu'il y a une nouvelle anthropologie qui naît dans notre société occidentale.
Alors, je pense que d'un côté, ce paradigme hérité des Lumières, il reste encore très très fort, en particulier dans tout le monde économique, qui continue de fonctionner sur une vision de l'homme très réductrice, celle de l'homo economicus. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce paradigme-là, dont on voit les impasses, dont on ressent de plus en plus les effets négatifs, que par rapport à ce paradigme-là, est en train d'émerger dans toute une série de domaines, toute une série de champs. On peut penser à l'éducation, à la santé, à l'écologie, même à la physique, à la science, un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, on pourrait l'appeler holistique, dans le sens où il prend effectivement en compte la totalité au niveau anthropologique, non seulement l'aspect corps et âme, on voit bien comment la psychosomatique, qui est quand même à un moment donné une réunification des deux éléments, a pris véritablement aujourd'hui, c'est une évidence, mais où effectivement de plus en plus il y a aussi une conscience qu'il y a certainement ou peut-être encore une troisième dimension d'un autre ordre, plus mystérieuse, plus intérieure, divine, qui existe et dont il faut tenir compte. Et on voit notamment la manière dont, en particulier dans le domaine de la science, avec la physique quantique par exemple, ou d'autres domaines, où, alors évidemment, on est dans le domaine de la science, donc on ne va pas pouvoir affirmer l'existence d'une dimension divine, mais où on voit bien que, en réalité, le réel, la réalité, a des dimensions de profondeur et a une complexité beaucoup plus grande que ce qu'on avait imaginé jusque-là, ce qui réouvre une dimension quasi métaphysique où l'invisible peut en fait retrouver une réalité. Et ça se manifeste aussi, à mon sens, dans les quêtes spirituelles et dans toutes les expériences qu'on peut faire à travers notamment la méditation, où à travers la méditation, non seulement on se reconnecte aux différentes parties de notre être, mais on se reconnecte aussi à d'autres dimensions du réel.
C'était Michel Maxime Eger, sociologue de tradition orthodoxe. Evelyne Auberçon, pour lui, en quelque sorte, l'attrait pour la méditation, c'est comme le symptôme d'un changement de paradigme dans notre société. C'est fort ce qu'il dit. Hein.
C'est fort, et je crois que ça ne se mesure pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi en philosophie, parce qu'on peut aussi constater aujourd'hui la même évolution en matière de philosophie. Il y a de plus en plus de philosophes qui adoptent une démarche plus existentielle liée à l'expérience de vie et pas seulement une réflexion cérébrale désincarnée.
Et pour revenir à Michel-Maxime Eger, on peut préciser qu'il est l'auteur d'un livre qui est paru l'année dernière chez Laboret Fides.
Hein. Et qui s'intitule « La Terre comme soi-même, repère pour une éco-spiritualité », où justement, il développe les changements de paradigme évoqués juste à l'instant.
Eric, vous nous avez proposé, consacré à la méditation chrétienne, notre lien internet, je vous le redonne, rts.ch/esprit. Merci à Hélène Ichters pour la réalisation, ainsi qu'à Diane Dufaux, notre assistante de production. La semaine prochaine, nous vous proposons une série qui va certainement encore évoquer la question de la méditation, de la prière, puisque Gabriel de Sarzan nous propose de rencontrer des ermites d'aujourd'hui, des ermites contemporains. Une série à découvrir à partir de lundi, 16h30. Très bon week-end à vous tous. Ainsi s'achève cette série à vue d'esprit d'Evelyne Auberçon intitulée « Aux racines chrétiennes de la méditation », une série que vous pouvez réécouter en allant sur notre page internet rts.ch/esprit. Lundi, on se retrouve pour une nouvelle série consacrée aux ermites d'aujourd'hui, une série signée Gabriel de Sarzan. Bon week-end à vous tous. Dans quelques minutes, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Sur Espace 2, il est 17h.